Je suis Gwenola David, directrice adjointe et conseillère artistique et pédagogique du Centre national des arts du cirque.
Le CNAC.
Le CNAC.
Gwenola, tu as ce matin animé un débat, fait, comme on dit, la modératrice. Et le débat, c'était autour de quelle écriture pour le cirque. Alors moi, j'ai assisté au début, mais j'ai pas pu rester jusqu'au bout, mais c'était passionnant. Qui étaient les intervenants déjà sur ce débat? Qui étaient les intervenants?
Alors, on a réuni un panel des intervenants artistes qui sont présents sur le festival. Il y avait Gulko qui présente Rêve, et il y avait Dan de Munck qui présente Nord-Sud, Benoît Belleville qui va jouer et présenter Cirque Épicycle, donc compagnie Cirque Vost, Christian Lucas qui met en piste, ou en tout cas l'œil extérieur de la fanfarerie nationale, Circus Tsuika, enfin...
Circa Tsuika.
Voilà, Circa Tsuika. Et puis, Jérôme Thomas, donc, qui va présenter avec Marcus Schmitt ici, et qui était particulièrement à l'honneur, puisque nous venons de publier dans la collection Quel Cirque, que le CNAC coédite avec Actes Sud, un volume qui lui est consacré donc, sur son travail, sa façon de travailler le jonglage, de travailler la mise en scène du jonglage. Voilà, toutes les questions qui touchent autour de la construction, les coulisses de la création, au fond.
Et particulièrement à l'honneur aussi parce qu'il fait la une de Libération. Aujourd'hui, on enregistre cette interview lundi.
Exactement. Je crois que j'ai pas lu l'article, mais je crois qu'il était très, très élogieux. Et c'est vrai que moi, je me réjouis en tout cas de découvrir le spectacle demain après-midi.
Alors tous ces gens parlaient vraiment des coulisses de la création, des coulisses de l'imaginaire, d'où venaient les spectacles, comment ils se confrontaient après au réel. Alors chacun avait ses positions, chacun avait sa façon de concevoir et de créer à partir... Et un d'une bande dessinée, l'autre de rêves qu'il faisait, qui confrontait au réel et à la scénographie. Est-ce que tu peux nous faire un panel de ce qui s'est dit par rapport justement à la confrontation des rêves et des envies au réel? Ça avait l'air d'être intéressant.
Oui, bah, tout d'abord peut-être resituer l'enjeu de cette thématique. Quelles écritures pour le cirque? Quelles écritures au pluriel? Parce que dans l'affirmation de la position d'auteur, il y a beaucoup de singularités qui s'affirment. Cette dimension de création est aussi l'affirmation de personnalité sur la piste. Donc ça, c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à le mettre au pluriel, et on a bien vu dans les prises de parole, dans la façon dont chaque artiste finalement amorce le geste d'écriture, qu'il y a autant d'artistes qu'autant d'histoires, qu'autant de gestes. Et cette thématique, les écritures pour le cirque, elle est au cœur de nos préoccupations, nous, en tant qu'école, parce qu'on se questionne beaucoup, et presque au jour le jour à travers la pédagogie, sur qu'est-ce qui fait la singularité des écritures pour le cirque. La danse à la chorégraphie, le théâtre, la mise en scène, la musique, l'orchestration, enfin, chaque art a développé une grammaire qui lui est propre, et en tout cas nous sommes convaincus qu'il existe une grammaire propre au cirque qui jusqu'à présent a beaucoup emprunté aux autres arts. On est allé emprunter à la danse, on a emprunté au théâtre. Et de plus en plus se développe cette façon particulière qu'a le cirque de développer un propos, de mettre en scène des corps, des personnalités sur la piste. Et ça nous intéresse vraiment énormément, et encore une fois au quotidien dans les enjeux de la pédagogie que nous développons au CNAC. Alors ce qui était passionnant ce matin, c'est que on n'a pas essayé de théoriser qu'est-ce que ce serait la recette de la mise en scène des spectacles de cirque ou de l'écriture pour le cirque, mais on est beaucoup plus parti des expériences singulières, des expériences personnelles, pour essayer de voir quels étaient les enjeux qui étaient soulevés à chaque fois. Et chacun a effectivement décrit son premier geste. Comment ça part? Alors, voilà, pour Gulko, ça part de gestes, ça part d'intuition, ça part aussi de contraintes économiques, ça part de contraintes financières, de contraintes de temps, parce que ça aussi, c'est une des données de la création. Et puis, ça part de cette matière très intime, c'est-à-dire les rêves. Et donc, il a commencé, lui, à écrire, je pense, dans une espèce d'écriture automatique, en tout cas, c'est ce qu'on percevait à travers son propos. Et voilà, cette matière, il l'a ensuite mis à l'ouvrage en la partageant avec d'autres artistes de cire qu'il a convié à participer à ce processus de création.
Je ne me souviens pas très bien de mes rêves, comme beaucoup de monde, et donc si je ne fais pas les carnets, je me souviens très peu. Et j'ai vu, il y a des moments où je n'ai pas le temps, je n'écris pas, du coup je ne me souviens de rien. Et quand je m'y mets, tous les jours, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, ah, un petit peu, ah, tous les jours. Et je me disais, ah, ça sera rigolo, juste comme une méthode, pas comme un thème, mais comme une méthode avec une équipe, de dire, on va, pendant le temps d'une création, à travers les 6 mois de vie, qui ne sont pas que, on avait 3 mois de répète, mais à travers 6 mois, qui pouvaient faire des carnets. Et que cette matière contaminera le spectacle lui-même. En même temps, j'avais pris des décisions plutôt économiques que artistiques. Voilà. Souvent, on n'en parle pas, mais c'était vraiment pas ma vision à réaliser, mais de dire comment je peux faire quelque chose qui tourne en ce moment. Ok, on a dit on quitte le chapiteau, on n'est pas assez sûr pour être dans un chapiteau, donc on le lâche avec beaucoup de tristesse. Mais on a dit on va sur la scène où il y a peut-être plus de réseau pour des spectacles expérimentaux comme nous. Donc ça, c'était un choix. Donc déjà, la boîte, ok, on va être dans la boîte, qu'est-ce que ça va faire ?
Cirque Vost, par exemple, ils sont partis d'une structure, ils sont partis de la matière. Ils ont construit une immense structure qui fait 13,50 m de haut, parce que travaillant sur des disciplines aériennes, ils ont besoin de cette hauteur pour évoluer. Et ils ont construit donc 2 roues qui sont leur espace, leur machine. Et l'écriture, elle est partie aussi des contraintes de la machine, qui, par exemple, impose de monter de telle ou telle manière, qui impose des déplacements, des circulations. Ils sont partis aussi des contraintes de leurs propres agrès, de montage, de démontage, parce que ça, c'est une donnée très forte dans le cirque, cette contrainte qui va guider le parcours, qui va guider le chemin de la création.
Voilà, c'est la base de l'aérien. L'aérien, il commence à, on va dire, 13,50 m de haut, quoi. Donc tout de suite, ça veut dire... Ça veut dire un portique, ça veut dire de la ferraille, ça veut dire beaucoup de contraintes techniques. Et après les arceaux, on s'est dit, on va faire quelque chose de petit. Parce que les arceaux, c'était quand même un grosse compagnie, gros chapiteau. Et puis on n'y est pas arrivé.
À faire quelque chose de petit. Mais vous êtes arrivé à faire quelque chose.
On est arrivé à faire quelque chose. Parce que notamment, voilà, la contrainte de l'aérien fait que tout de suite, on est dans des mesures...
Des volumes
immenses. Donc voilà, donc du gros, donc tout s'enchaîne. Hein. La structure doit être à 13,50 m, on doit recouvrir la structure, donc il faut qu'un chapiteau il soit plus haut que 13,50 m. Chapiteau plus haut que 13,50 m, ça n'existe pas sur leboncoin.fr. Donc, et ben voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et ben, on se dit, on y va, on l'achète, pourquoi pas, mais il faut des sous. Donc, là aussi, on en revient à la contrainte financière des créations.
Voilà. Dan de Meung qui est parti de cette rencontre très particulière avec Buren, un travail qu'il mène depuis plus de 10 ans. Buren, plasticien qui travaille beaucoup sur la notion de in situ, la façon dont l'œuvre va être un révélateur de l'espace environnant. Et donc il a travaillé avec Buren à concevoir d'abord une espèce d'installation scénographique, un espace particulier qui va convoquer un regard particulier du public. En l'occurrence, Nord-Sud sépare l'espace circulaire qui normalement est ouvert à tous les points de vue. C'est vraiment un espace où chacun voit presque la même chose, ce qui est au centre. Et bien lui a pris le parti pris de questionner cet espace-là en le coupant en 4. Voilà, il y a 4 quartiers comme les 4 points cardinaux. Et c'est à partir de cet espace qu'il a travaillé, qu'il a convoqué telle ou telle discipline de cirque, en l'occurrence par exemple du funambule, puisque dans sa scénographie, dans son espace intérieur, il y a tout un système de voiles qui enserre la piste et que le funambule, ça permet de dépasser ce voile. Pour Jérôme, ce sera encore une autre histoire. C'est l'histoire d'une rencontre avec Marcus Schmidt, qui vient beaucoup plus, lui, non pas du jonglage, mais des arts du mime. Et donc, il y a une rencontre entre eux à partir des vocabulaires corporels. C'est sur cette cet axe-là qu'ils ont développé un vocabulaire commun, un vocabulaire de la rencontre. Et puis dernière expérience un petit peu plus atypique, celle de Christian Lucas qui a été œil extérieur pour beaucoup de compagnies. Là, il travaille avec sur la fanfarerie nationale, mais il a également travaillé avec le Cirque des Accordés, il a travaillé avec XY, enfin beaucoup d'expériences. Et en tant que regard extérieur, il nous expliquait que son boulot, au fond, c'était de découvrir la ligne de force à partir de la matière que vont apporter tous les artistes depuis leur pratique singulière, qui au mât, qui à la balançoire russe, qui aux équilibres au sol. À partir de cette matière, eh bien, il va se dégager quelque chose et ce quelque chose sera le point de référence auquel on reviendra pour trouver une cohérence à la globalité. Donc voilà, autant d'expériences, autant d'artistes et autant d'aventures singulières.
Mais je crois que ce qui ressort aussi un peu de tout ça, c'est qu'il y a quand même un langage propre au cirque, un langage propre aux disciplines, et qu'en fait, c'est comment on va enrober tout ça, comment on va mettre en scène, en fait, mais il y a un langage spécifique à chaque discipline, apparemment, auquel tous les circassiens tiennent. Tout l'enjeu va être de mettre ça en forme, de comment on va rentrer dans une figure et en sortir.
Alors l'enjeu, il est effectivement vraiment de partir de ces langages circassiens. Mais je crois qu'il y a une théâtralité, un sens propre à ce langage circassien. Le langage circassien, à mon sens, a cette capacité absolument formidable d'être dans un espace de métaphore, d'ouvrir l'imaginaire. Et c'est en ouvrant cet imaginaire qu'on va pouvoir trouver du sens. Alors, évidemment, il y a des questions de transition, d'enrobage, si on peut dire. Mais la recherche d'une écriture propre au cirque, d'une mise en piste propre au cirque, elle va partir de ces possibilités d'expression, d'image, de qu'est-ce que ça évoque, de quoi ça nous parle, qui sont propres au langage circassien. Le théâtre va partir du texte, la chorégraphie va partir du mouvement, va partir de l'espace, du temps. Eh bien, le cirque a ses propres langages et il fait sens à partir de ses propres langages.
Je ne sais plus qui disait ce matin qu'on rentre dans un chapiteau comme on rentre dans un imaginaire. On a l'impression que c'est encore plus vrai au cirque qu'au théâtre. Quand on rentre dans un théâtre, on rentre dans un théâtre. Et c'est élisabéthain, c'est un peu élisabéthain, c'est séparé, la scène, le public. Mais là, dans un chapiteau, déjà, on est confiné dans un imaginaire. Non ?
Oui, enfin, je vais mal paraphraser Duchamp qui disait que l'œuvre se situait quelque part entre ce que l'artiste veut montrer et ce que le spectateur vient voir. Mais c'est vrai qu'on n'arrive jamais vierge dans une salle de spectacle et encore moins dans un chapiteau. Le chapiteau, qu'on le veuille ou non, est marqué par l'imaginaire collectif. On a tous été, quand on était enfant, on a été au cirque et généralement, on a été beaucoup au cirque traditionnel. Et il y a cet imaginaire-là qui fait partie de l'inconscient collectif et qui continue de marquer très très fort. Donc forcément, quand on s'adresse à un public diversifié, qui ne sera pas forcément le public spécialisé du cirque contemporain, eh bien forcément, il y a ce vécu, cet imaginaire qui va marquer le regard du spectateur. Mais de la même façon que le regard du spectateur est marqué par ses expériences intimes, ses expériences familiales, ce qui il est, son expérience sociale, le regard se construit avec ce qu'on est et il se construit aussi avec ce qu'on nous montre. C'est ce qui fait d'ailleurs que chaque expérience de spectateur est singulière et tout à fait passionnante dans une discussion, par exemple, quand on la confronte à une autre.
Gwenola David, vous-même, je crois que vous étiez un peu extérieur au cirque, vous êtes venu après des expériences théâtrales, après avoir vous être intéressé très à fond au théâtre. Comment vous êtes arrivé au cirque, si c'est exact ce que j'ai dit?
D'abord, c'est vrai que j'ai commencé des études qui ne me menaient pas du tout vers le spectacle vivant, parce que j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Dauphine, enfin voilà, j'ai des études qui étaient plutôt un peu différentes, et j'ai toujours été une spectatrice assidue du spectacle vivant. J'ai commencé effectivement par le théâtre, je suis allée très jeune, j'ai découvert le Festival d'Avignon, je me suis enthousiasmée, c'était vraiment une aventure très forte. Et puis après, ma curiosité m'a poussée à aller voir ailleurs, donc je suis allée voir du côté de la danse, et puis encore je suis allée voir ailleurs, donc je suis arrivée au cirque, et là j'ai découvert un univers absolument formidable, un univers, on le disait au tout début de notre conversation, mais qui est fait de telles singularités différentes qu'il en est vraiment, vraiment passionnant. Donc mon expérience du cirque, elle est venue d'une expérience d'observateur un peu particulier, puisque j'ai travaillé et je continue encore un peu à travailler comme journaliste et critique. Donc elle est venue de ce regard de critique sur les œuvres et de ces conversations que j'ai pu avoir avec les artistes autour de leur travail, où c'est chaque fois des conversations extrêmement riches, nourries, où on découvre ces processus de création, on découvre aussi les difficultés, les contraintes. Donc c'est dans ce partage-là, en tout cas, que je suis arrivée au cirque et que cet univers est ma foi fort, fort passionnant.
Donc deux critiques. Vous êtes passé de l'autre côté, vous avez mis les mains dans le cambouis, comme on dit, au Centre National des Arts du Cirque. Quel est votre poste, quelle est votre fonction là ?
Donc je suis directrice adjointe, conseillère artistique et pédagogique, et je m'occupe en particulier donc de tout ce qui est conception du programme pédagogique. Et je crois que ce qui est très important, c'est que un programme pédagogique, il soit relié aux enjeux de la création contemporaine. Il ne s'agit pas de faire une école qui réponde au marché. Je crois que c'est un autre type d'école. Ce n'est pas là l'endroit où nous nous situons. En revanche, là où nous nous situons totalement en écho avec la profession, avec les artistes, c'est sur ces enjeux de la création contemporaine. Comment est-ce que dans la formation, on va donner des outils ? Alors bien sûr, des savoir-faire, évidemment des savoir-faire techniques. Puisqu'on parlait de langage circassien, il y a langage à partir du moment où on manie, où on possède ce langage et où on va pouvoir le transcender. Donc ça exige un apprentissage technique très pointu et qui est très important en temps, en investissement au Centre National des Arts du Cirque. Mais ça veut dire aussi que si c'est langage, c'est un moyen, ça n'est pas une finalité. Et donc on va travailler ce langage comme moyen d'expression en le confrontant à la question d'écriture, en multipliant aussi la boîte à outils, en allant chercher dans la danse, dans la musique, dans la mise en jeu, le théâtre, etc. Dans aussi ce qui fait partie de la création, comme la scénographie, penser l'espace, c'est extrêmement important au cirque. Le cirque n'est fait que de contraintes, d'agrès, de montage, de démontage. Donc penser l'espace est une chose passionnante. Penser la lumière est tout à fait aussi intéressant et essentiel dans la formation d'un artiste, mais comme penser l'image ou encore penser le son en circulaire. Donc au CNAC, on essaye d'apporter bien sûr ces savoir-faire indispensables. Savoir-faire circassien, savoir-faire, disons, dans le corporel, savoir-faire aussi très important sur tout ce qui est la sécurité, les techniques d'échauffement, voilà, tout ça, c'est une partie importante, mais toujours en résonance avec d'autres arts et en lien avec les enjeux de la création, en lien avec ce questionnement sur le langage circassien comme un langage qui exprime quelque chose, qui exprime quoi, à chacun de le construire.
Le cirque, de toute façon, comme toujours, découvert de l'ailleurs, découvert de l'étranger, découvert de l'autre.
Oui, toujours cette curiosité. Et je crois que c'est ce qui fait que ça reste un domaine de création formidable, parce qu'il y a des champs de possibles énormes et on essaye, en tout cas, à notre petite mesure, de les défricher.